Deuxième partie, le tigre de San Pedro. Une marche de quelques miles par cette atmosphère froide et dans ce décor mélancolique nous menèrent à une haute porte extérieure en bois qui s'ouvrit sur une sombre avenue de châtaigniers. Nous suivîmes un chemin ombrageux et serpentant et parvînmes à une maison basse et sombre qui formait une tache d'encre sur un ciel couleur d'ardoise. Derrière une fenêtre à gauche de la porte brillait seule une faible lumière. Un agent de police est en faction, déclara Bates, je vais frapper à la fenêtre. Il traversa la pelouse et frappa de la main au carreau. À travers la fenêtre embuée, je vis un homme tressaillir subitement de sa chaise placée à côté du feu, et un petit cri me parvint de l'intérieur de la pièce. Quelques instants plus tard, un agent de police, blême au souffle court, nous ouvrait la porte, une bougie vacillant dans sa main tremblante. « Eh bien, que se passe-t-il, Walters ?» demanda Baines d'un ton sec. L'agent s'essuya le front d'un mouchoir et poussa un soupir de soulagement. « Oh, je suis heureux de vous voir, monsieur. La nuit a été longue et je soupçonne mes nerfs d'être à bout de force. » « Vos nerfs, dites-vous, Walters, je n'aurais jamais soupçonné que vous en possédiez. »« Monsieur, c'est que seul, dans cette maison déserte et silencieuse, et puis avec la chose bizarre qui se trouve dans la cuisine, et puis, oh, quand vous avez tapé à la fenêtre, j'ai cru que ça recommençait. »« Mais qu'est-ce qui recommençait ?»« Ben, les diableries, monsieur, à ce qu'il semble. Le diable lui-même était à la fenêtre. » Était à la fenêtre, très bien, le diable lui-même. Et quand cela ? Cela fait tout juste 2 heures. Le jour venait juste de tomber. J'étais assis sur cette chaise et je lisais. Je ne sais pas ce qui m'a fait soudain lever les yeux vers la fenêtre, mais il y avait un visage qui me regardait par le carreau le plus bas. Oh mon Dieu, monsieur, quel visage ! Je ne cesse de le voir devant moi à chaque fois que je ferme les yeux. « Voyons, voyons, Walter, ce ne sont pas des paroles dignes d'un agent de police. »« Je sais, monsieur, je sais, mais cela m'a choqué, monsieur, et cela ne me servira à rien de le nier. »« Il n'était pas noir, monsieur, il n'était pas blanc non plus, ni d'aucune couleur que je connaisse. »« On aurait dit plutôt une sorte d'ombre bizarre, couleur de craie, avec un nuage de lait dedans. »« Et puis il y avait sa taille. » Mais faisait 2 fois la vôtre, monsieur. Et son regard, oh, 2 yeux énormes, fixes, globuleux. Et puis cette rangée de dents blanches, digne d'une bête féroce affamée. Oh, je vous assure, monsieur, que j'ai pas pu bouger un orteil, ni même respirer, avant qu'il eût disparu. Rassemblant alors tout mon courage, je me suis rué dehors et inspecté les buissons, mais Dieu merci, en vain. Si je ne vous tenais pas en si haute estime, Walter, je vous aurais attribué un blâme pour ce que je viens d'entendre. Quand bien même ça aurait été le diable lui-même que vous ayez aperçu, un honnête fonctionnaire ne devrait jamais remercier Dieu de ne pas avoir pu lui mettre la main dessus. Ne pensez-vous pas que tout ceci provienne en réalité de votre imagination et de la fatigue ? Voilà qui est très facile à établir, dit Holmes, en allumant sa petite lanterne de poche et en examinant la pelouse au dehors. Oh, l'imagination de Walters ne lui a joué aucun tour, inspecteur. Voici l'empreinte d'une pointe de taille 48, dirais-je. Si le reste du corps est proportionnel à la pointure de ce pied, l'individu aperçu par Walters doit être d'une taille considérable. Mais qu'est-ce qu'il est advenu de lui ? Ben, il semble qu'il ait sauté par-dessus les arbustes et rejoint la route. « Bien, » dit l'inspecteur d'un air grave, le visage pensif. « Qui que ce fût et quoi qu'il eût à faire ici, il a maintenant disparu et nous avons présentement des questions plus urgentes à traiter. « Monsieur Holmes, avec votre permission, je vais vous faire visiter la maison. » Les nombreuses chambres et salons ne livrèrent aucun indice particulier à notre examen minutieux. Apparemment, les occupants n'avaient apporté que pas ou peu de choses avec eux, la maison ayant été louée et meublée jusque dans ses moindres détails. Un certain nombre de vêtements de la marque Max & Co. de Hyde Holborn avaient été abandonnés sur place. Le contact télégraphique déjà pris avec Marx n'avait rien appris, hormis que leur client était un bon payeur. Du bric-à-brac, des pipes, quelques romans, dont deux en espagnol, un vieux revolver et une guitare semblaient constituer tout le bien résiduel du locataire. Rien de tout cela ne nous éclaire, dit Bynes, qui furetait de pièce en pièce une bougie à la main. Mais à présent, monsieur Hall, je vous invite à déplacer votre attention vers la cuisine. La cuisine était une pièce sombre et haute sous plafond située à l'arrière de la maison. Elle comportait une sorte de lit de paille dressé dans un coin, destiné apparemment au couchage du cuisinier. Sur la table trônait un monceau d'assiettes sales et de plats à moitié entamés, les restes sans doute du dernier dîner. Observez un peu cela, dit Bynes. Qu'en dites-vous? Il approcha la bougie d'une chose toute particulièrement posée contre le mur à l'arrière de la commode. Elle était totalement ridée, ratatinée et desséchée, qu'il était difficile de dire ce qu'elle avait pu être. Il était seulement possible de constater qu'elle était de couleur noire, qu'elle présentait l'aspect du cuir et qu'elle avait forme humaine. À prime abord, lorsque je l'examinais, je pensais immédiatement à un bébé noir modifié, mais un examen plus approfondi me fit songer davantage à un vieux singe aux traits crispés. Je le sus finalement si je contemplais un animal ou un humain. Une double rangée de coquillages blancs ceignait l'objet en son milieu. Très intéressant, vraiment très intéressant en réalité, dit Holmes, scrutant la sinistre relique. Quelque chose d'autre? Mayne se dirigea en silence vers l'évier et tendit le bras pour l'éclairer de sa bougie. Il était jonché des membres et des plumes de ce qui avait dû être un oiseau blanc, sauvagement déchiqueté. Holmes désigna les barbillons sur la tête tranchée. Un coq blanc, dit-il. Mais de plus en plus intéressant. Nous sommes réellement en présence d'un cas très étrange. L'inspecteur Bynes avait réservé les plus sinistres de ses pièces à conviction pour la fin de notre examen. De sous l'évier, il extirpa un seau de zinc rempli de sang et s'empara d'un plateau qui se trouvait sur la table, lequel était jonché de petits morceaux d'os calcinés. Quelque chose a été tué et quelque chose a été brûlé. Nous les avons récupérés au fond du foyer de la cheminée. Nous avons demandé conseil à un médecin ce matin. Il nous a confirmé que ces débris n'appartenaient pas à un humain. Holmes sourit et se frotta les mains. Mais je dois vous féliciter, inspecteur, pour vous être si bien occupé d'un cas ô combien peu banal et pourtant si instructif. J'espère ne pas vous offenser en disant que vos capacités surpassent de loin les rares occasions qui vous permettent de les déployer. Les petits yeux de l'inspecteur Bynes s'étincelèrent de plaisir. Ben, vous avez raison, monsieur Holmes, on ne gravit pas d'échelon dans nos provinces. Un cas comme celui-ci me donne l'occasion de me distinguer. J'espère être en mesure de saisir ma chance. Que pensez-vous de ces os? Ajouta-t-il en s'adressant à moi. Bon, moi je dirais à première vue qu'ils pourraient être ceux d'un agneau ou encore d'un enfant. Et quant au coq blanc, poursuivit l'inspecteur en s'adressant à nouveau à mon ami. Curieux, monsieur Bynes, très curieux. Un indice unique. Oui, monsieur, cette demeure a dû être occupée par des gens réellement très étranges, qui avait de non moins étranges coutumes. Mais l'un d'eux est mort. Sont-ce ses compagnons qui l'ont suivi et assassiné? Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de les prendre tôt ou tard dans nos filets, car chaque port du pays, sans exception, est surveillé. Mais je songe pour ma part à une autre éventualité. Oui, monsieur, tout autre et ô combien différente. Vous avez donc une théorie? Oui, je travaille à la mettre en lumière par moi-même, monsieur Holmes. C'est là mon seul espoir de voir un jour mes capacités reconnues. Votre renommée est faite en ce qui vous concerne, mais j'ai pour ma part à construire intégralement la mienne. Je serais heureux de pouvoir dire un jour que j'étais capable de résoudre cette énigme sans recourir à votre aide. Holmes se mit à rire avec bonne humeur. Bien, bien, inspecteur, dit-il. Suivez donc votre piste et je suivrai la mienne. Mes avancées seront à tout moment à votre disposition, s'il vous seyait d'en prendre connaissance. Je crois que j'ai examiné dans cette maison tout ce que je souhaitais et que mon temps pourrait à présent se trouver employé d'une façon plus productive dans d'autres endroits. Goodbye, donc, inspecteur, et bonne chance. Je percevais de nombreux signes qui auraient pu sembler parfaitement anodins à d'autres, indiquant que les investigations de Holmes avançaient. D'attitude aussi impassible qu'à l'accoutumée aux yeux de l'observateur novice, son empressement mesuré, la tension latente de tous ses membres, l'éclat de ses yeux trahissaient cependant clairement son activité intérieure. Conformément à son habitude, il ne disait rien, et conformément à la mienne, je ne lui adressais pas la moindre question. Je me contentais de savourer le plaisir d'assister à ses recherches et d'apporter mon humble contribution à la mise en forme du récit des événements sans déranger ce brillant cerveau par des interruptions aussi intempestives qu'inutiles. Tout me serait expliqué en temps et en heure. J'attendis donc patiemment, mais à mon grand désappointement, j'attendis en vain. Les jours se succédèrent et l'enquête de mon ami semblait piétiner. Il passa un jour, une matinée entière en ville, et j'appris par la suite, par l'une de nos relations, qu'il s'était rendu au British Museum. À l'exception de cette seule excursion citadine, il dépensait ses journées en longues et fréquentes promenades solitaires ou en bavardant avec quelques dames loquaces du village dont il avait recherché et cultivé la compagnie. Je suis certain, Watson, qu'une semaine de repos à la campagne nous fera le plus grand bien, me dit-il un matin. C'est pour l'homme toujours aussi merveilleux de contempler l'apparition des premiers bourgeons sur les haies et les chatons fleurir sur les noisetiers. Je crois que nous pourrions, à l'aide d'un Saint-Cloud, d'une boîte en fer-blanc et d'un ouvrage de botanique, profiter de moments fort instructifs au sein de cette nature. Muni de cet équipement précis dès le matin, il ne rapportait pourtant le soir de ses expéditions quotidiennes que quelques maigres et rares échantillons de plantes. Il nous arriva, au cours de l'une de nos rares promenades communes, de rencontrer l'inspecteur Bynes. Son gros visage rouge fondit en un sourire à notre approche, et ses yeux brillèrent lorsqu'il salua mon compagnon. Il ne parla que très peu de notre affaire, mais de ce fait, je pressentais qu'il n'était pas mécontent de la tournure que prenaient ses investigations. Ce fut donc avec une certaine surprise que, 5 jours environ après la mort de Garcia, j'ouvris le journal du matin et y lus ce gros titre: L'énigme d'Oshot résolue, arrestation de l'assassin présumé. Dès que je lui eus lu ces lignes, Holmes sauta de sa chaise comme propulsé par un ressort. Nom d'une pipe! S'écria-t-il. Bynes l'aurait donc attrapé! Apparemment, dis-je. Et je poursuivis ma lecture à haute voix. Une grande excitation animait Cher et ses environs depuis que, tôt la nuit dernière, la nouvelle de l'arrestation d'un suspect en relation avec l'énigme d'Oshot s'est répandue. Il faut se remémorer que M. Garcia de Wisteria Lodge avait trouvé la mort sur Oakshott Common, son corps portant des traces de blessures d'une extrême violence. Dans le courant de la nuit de sa mort, son domestique et son cuisinier avaient également disparu, ce qui semblait démontrer leur implication dans le crime. Il avait été avancé, bien que jamais établi, que le défunt aurait pu posséder des objets de valeur dans sa demeure et que le vol avait été le mobile du crime. L'inspecteur Bynes, qui s'était vu confier l'affaire, n'a cessé de déployer tous ses efforts pour découvrir le refuge des fugitifs. L'inspecteur Bynes avait déclaré avoir d'excellentes raisons de croire qu'il se cachait dans un lieu de retraite proche et qui aurait été au préalable convenu et préparé. Il ne faisait aucun doute dans l'esprit de l'inspecteur qu'il finirait par être retrouvé puisque le cuisinier avait été aperçu par la suite par plusieurs témoins à travers les carreaux de la fenêtre de sa précédente demeure et qu'il était un homme d'une apparence peu commune qui ne pouvait que difficilement passer inaperçu. De taille et de stature immense, ce mulâtre, décrit comme énorme et hideux, au visage grisâtre, possédait un type négroïde extrêmement prononcé. Cet homme, aperçu un soir aux fenêtres de l'endroit, alors qu'il avait eu l'audace de revenir à Winchester Lodge, avait à cette occasion été poursuivi par l'agent Walters. L'inspecteur Bynes, soupçonnant qu'une telle visite n'était pas dénuée d'un but précis, et ne manquerait sans doute pas d'être répété, laissa délibérément la maison pour abandonner et sans surveillance, mais se posta à l'extérieur en embuscade dans les buissons. Le piège s'est rapidement refermé sur l'homme recherché, qui fut capturé la nuit dernière à l'issue d'une lutte menée avec l'inspecteur Downing, lequel fut sauvagement mordu par son adversaire. Nous avons été informés du fait que, lorsque le prisonnier sera traduit devant la justice, la police sollicitera un renvoi et que de grands développements ne manqueront pas de suivre cette arrestation. « Oh, mais nous devons voir Bynes sur le champ !» s'écria Holmes en s'emparant de son chapeau. « Nous en avons sans doute juste le temps avant son départ. » Nous nous ruâmes à l'extérieur, courûmes le long des rues du village, et trouvâmes, comme Holmes l'espérait, l'inspecteur se préparant à quitter sa demeure. « Vous avez lu le journal, monsieur Holmes ?» demanda-t-il en s'adressant à mon compagnon et en lui en tendant un exemplaire. « Oui, Bynes, je l'ai lu. Je vous prie de ne pas prendre mal la mise en garde amicale que je suis venu vous adresser. »«
Une mise en garde, monsieur Holmes ?»
J'ai procédé à une enquête des plus scrupuleuses dans cette affaire, et je ne suis pas convaincu que vous ayez procédé à l'arrestation du vrai coupable. Je regretterais de vous voir le plus avant dans cette affaire, à moins que vous ne soyez absolument sûr des faits.
Mais votre sollicitude me touche, monsieur Holmes.
Oh, mais je vous assure que je ne m'exprime que dans votre intérêt.
Il me sembla voir l'inspecteur cligner de l'œil à notre adresse. Mais nous avions convenu de travailler chacun de notre côté, monsieur Holmes. C'est ce que je fais.
Très bien, dit Holmes. Je vous prie de m'excuser.
Bien sûr, je ne doute pas que votre mise en garde reflète un bon sentiment. Mais nous avons chacun nos propres méthodes, monsieur Holmes. Vous avez les vôtres, j'ai les miennes.
N'en disons pas davantage. Mettons un terme à notre discussion.
Vous serez toujours bien reçu si vous souhaitez des nouvelles fraîches de l'affaire. Cet individu est un véritable sauvage, fort comme un bœuf et féroce comme le diable. Il a presque réduit en bouillie le pouce de l'agent Downing avant que nous ayons pu intervenir et le maîtriser. Il parle à peine un mot d'anglais et nous ne pouvons en tirer autre chose que d'affreux grognements.
Et vous avez la preuve que ce soit bien l'auteur de l'assassinat de son maître.
Ah, je n'ai pas dit cela, monsieur Holmes, je n'ai pas dit cela. Nous avons tous nos propres méthodes, si vous me permettez de me répéter. Vous éprouvez les vôtres et j'éprouve les miennes. C'est ce que nous avions convenu. Holmes haussa les épaules et prit congé de l'inspecteur. Nous reprîmes notre chemin.
Je ne parviens pas à cerner cet homme. Il se tient debout délibérément au bord d'un précipice. Mais comme il le dit lui-même, chacun sa méthode. Nous verrons ce qui en découlera. Il y a cependant quelque chose dans l'attitude de l'inspecteur Bynes qui m'échappe.
Prenez cette chaise, Watson, je vous prie, me dit Holmes, lorsque nous fûmes de retour à l'auberge de Bull.
J'aimerais vous mettre au fait de la situation, car il se pourrait que j'aie un grand besoin de vous ce soir. Laissez-moi dérouler devant vous le tapis de cette affaire, aussi loin que j'ai pu moi-même le suivre. Aussi simple que cette affaire ait pu paraître à prime abord, elle comporte à présent un certain nombre de difficultés surprenantes qui entravent une quelconque arrestation. Il subsiste à son éclaircissement certains obstacles que nous avons à écarter. Reprenons à la note reçue par Garcia le soir de sa mort, si vous le voulez bien. Nous pouvons mettre de l'ordre. De côté, l'idée de Bynes selon laquelle les domestiques de Garcia étaient directement impliqués dans le meurtre de leur maître, qui se préparait, preuve en est que ce fut Garcia lui-même qui organisa en sa demeure la présence de M. Scott Eccles, laquelle ne se justifie que par le désir de se forger un alibi. C'est donc Garcia qui, ayant des projets, et l'on peut supposer des projets criminels, est à l'origine du décor de cette nuit fatale au cours de laquelle il a trouvé la mort. J'emploie le mot « criminel » pour décrire ses projets, car seul un homme ayant formé ce type de projet aurait eu besoin de se forger un alibi. Qui, dans cette configuration, est donc la personne la plus susceptible d'avoir souhaité attenter à la vie de Garcia? Certainement la personne contre laquelle les projets criminels étaient dirigés. Il me semble que jusque-là, nous suivons une bonne piste. Nous entrevoyons à présent la raison de la disparition soudaine des domestiques de Garcia. Ils étaient tous deux informés du crime à commettre et dont nous ignorons encore la victime que nous supposons coupable du meurtre de Garcia. S'il avait pu accomplir son dessein, le témoignage de l'honnête gentleman anglais aurait mis Garcia à l'abri de tout soupçon et tout aurait été pour le mieux. Mais la tentative de Garcia était une entreprise dangereuse. Si Garcia n'était pas de retour à une heure précise, cela signifiait qu'il avait perdu la vie. Il avait donc été convenu au préalable que dans ce cas, ces deux domestiques prendraient leur disposition afin d'échapper aux investigations et pourraient ainsi renouveler la tentative de leur maître qui avait échoué. Cela expliquerait pleinement les faits, ne trouvez-vous pas, mon cher Watson? Les chevaux inextricables semblaient se démêler comme par magie devant moi. Je me demandais, comme de coutume, pourquoi tout cela ne m'était pas apparu comme une évidence. Oui, mais pourquoi l'un des domestiques est-il revenu? Nous pouvons supposer que, dans la confusion et l'empressement, il a laissé derrière lui une chose précieuse, une chose à laquelle il ne peut se résoudre d'être séparé. Cela expliquerait qu'il persiste autant à la récupérer, ne trouvez-vous pas?
Oui, certainement.
Bien, alors, quelle est la prochaine étape? Le prochain éclaircissement consistera en celui de la note reçue par Garcia au dîner. Elle implique un autre complice à l'autre bout du fil de l'affaire. Mais où se trouve l'autre extrémité de ce fil? Je vous ai déjà montré qu'il ne pouvait mener qu'au sein d'une vaste demeure et que le nombre de celles-ci est limité aux alentours. Mes premiers jours dans ce village furent dédiés à une série de promenades au cours desquelles, pendant les quelques intermèdes que m'octroyaient mes recherches botaniques, je me consacrais à une reconnaissance de toutes les demeures imposantes des environs dont la liste m'avait été communiquée par télégramme, vous en souvenez, et à l'histoire de leurs occupants. Une maison et une seule retiennent l'attention. Il s'agit d'un célèbre manoir de l'époque de Jacques Ier, le manoir de High Gable, situé à 1 mile d'Oakshott et à moins d'une demi-mile de la scène de la tragédie. Les autres demeures qui auraient pu être concernées semblent appartenir à des propriétaires ordinaires et respectables, menant une vie tranquille. Même M. Henderson de High Gable était sous tous les rapports un homme curieux auquel les aventures les plus extraordinaires étaient susceptibles d'arriver. Je concentrais donc toute mon attention sur lui-même et sa maisonnée. Oh, des personnes bien curieuses, Watson. Le maître sans conteste le plus curieux de tous. Je m'arrangeais pour le rencontrer sous un prétexte plausible, mais il me sembla lire dans ses yeux sombres et suspicieux, enfoncés dans leurs orbites, qu'il était au fait de la véritable raison de ma visite. C'est un homme âgé d'une cinquantaine d'années, musculeux, athlétique, aux cheveux d'un gris d'acier, aux épais sourcils noirs en broussailles, à la démarche, à la stature impériale, un homme aussi farouche que magistral en somme, qui dissimule sans doute derrière son visage impassible et hâlé un esprit des plus incandescents. Il est sans doute étranger, il aura vécu longtemps sous les tropiques, car il est comme brûlé et desséché en apparence, mais a conservé toute sa robustesse intérieure. Son secrétaire et ami, M. Lucas, est indubitablement étranger quant à lui. De carnation brun chocolat, d'esprit rusé, à la fois suave et félin, sa parole est d'une douceur venimeuse. Alors vous constatez, Watson, que nous sommes parvenus à trouver deux maisonnées d'étrangers, la première à Wisteria Lodge, la seconde à High Gable. Un rat de lumière commence à se faufiler parmi les obstacles qui entravaient apparemment notre marche. Anderson et Lucas, amis proches et intimes, sont le centre de la maisonnée. Mais une troisième personne est dans l'immédiat susceptible de retenir également toute notre attention. Anderson a deux enfants, deux filles respectivement âgées de 13 et 11 ans. Leur gouvernante est Miss Burnett, une Anglaise âgée d'environ une quarantaine d'années. En plus d'un discret serviteur, ce petit groupe forme l'essentiel de la famille car ces six personnes voyagent ensemble. Anderson est un grand et fréquent voyageur. Il n'est rentré que la semaine passée au manoir de High Gable après un an d'absence. Je dois ajouter qu'il est immensément riche à tel point que, quels que soient ses caprices, il est parfaitement en mesure de les satisfaire. Pour le reste, sa maisonnée se compose de majordomes, valets, servantes en tout genre, et a pour fonctionnement coutumier celui d'une maison de campagne où règne le gaspillage. J'ai appris tout cela en bavardant au village et en observant moi-même. Il n'existe pas de source moins intarissable d'informations qu'un domestique remercié, et par chance j'en ai trouvé un. J'appelle cela de la chance, car il est certain que je n'en aurais pas trouvé un seul si j'en avais désespérément cherché un. Comme Bynes l'a judicieusement fait remarquer, nous avons tous nos propres méthodes, et ce furent elles qui me conduisirent à croiser la route de John Warmer, le précédent jardinier de High Gable, remercié en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire par son lunatique employeur Anderson. Warner avait parmi les domestiques des amis qui s'indignèrent et partagent son aversion pour leur maître. C'est ainsi que j'eus mes entrées dans la demeure et dans les faits et gestes qui s'y déroulent. Oh, les gens bien curieux, Watson. Oh, je ne prétends pas tout comprendre encore. Mais toujours est-il qu'ils sont très curieux. La demeure comporte deux ailes. Les domestiques occupent l'une, la famille, constituée du père, de son secrétaire, des deux enfants et de leurs deux domestiques attachés, l'autre. Il n'y a aucune communication entre les deux ailes, hormis celle opérée par la servante personnelle de Anderson, qui en charge le service des repas de famille. Tout est apporté devant une certaine porte qui forme le seul point de contact entre les deux maisonnées. La gouvernante et les enfants sortent à peine, hormis dans le jardin. Anderson ne sort jamais pour sa part seul, sous aucun prétexte. Son sombre secrétaire le suit comme son ombre. Il se murmure parmi les domestiques que leur maître craint un terrible événement. « Il a vendu son âme au diable pour de l'argent, » m'a répété Warner. « Et il s'attend à voir monter son créancier d'un jour à l'autre de l'enfer pour lui réclamer son dû. » D'où ces gens viennent et qui ils sont, personne n'en a aucune idée. Anderson est d'un tempérament violent. Par deux fois, il a frappé un domestique avec un fouet à chien, et seule sa bourse généreuse et considérablement garnie lui a épargné d'avoir affronté les cours des tribunaux. À présent, Watson, considérons la situation de leur point de vue. Nous pouvons supposer que la note émane de cette étrange maison et qu'elle était une invitation pour Garcia à tenter quelque chose qui avait été planifié. Et quel est l'auteur de la note? Une personne résidant dans la maison et une femme. Qui d'autre en ce cas si ce n'est Miss Burnett, la gouvernante? Tout notre raisonnement tend vers elle. Quoi qu'il en soit, nous devons considérer cela comme une simple hypothèse et envisager ses conséquences éventuelles. Je dois ajouter que l'âge de Mrs. Burnett et son caractère tel qu'il me l'a été décrit me font immédiatement songer que l'hypothèse d'une histoire amoureuse la concernant ne s'inscrit nullement dans le cadre de notre affaire. Si Miss Burnett est bien la femme qui a écrit la note, nous pouvons la présumer amie et complice de Garcia. Mais qu'est-elle donc censée faire dans le cas où elle apprendrait sa mort? S'il venait à mourir au cours de leur entreprise funeste, ses lèvres seraient scellées. Cependant, dans son cœur, elle conserverait de l'amertume et de la rancœur envers ceux qui l'auraient tué et désirait probablement aider de toutes ses forces à venger Garcia. N'aurions-nous pas, en vertu de cette hypothèse, tout intérêt à la rencontrer, à tenter de la gagner à notre cause? C'est ce que j'ai en premier lieu envisagé. Mais nous en arrivons là à un fait étrangement sinistre. Nul n'a plus aperçu Miss Burnett depuis la nuit du meurtre. À compter de cette nuit même, elle s'est littéralement évanouie. Est-elle encore en vie? Car peut-être a-t-elle cessé elle aussi de vivre la nuit même où son compagnon a rencontré son fatal destin? Ou bien est-elle prisonnière? Voilà les ultimes questions qui nous restent à élucider. Vous apprécierez la difficulté de la situation à sa juste valeur, Watson. Nous ne pouvons, avec certitude, nous appuyer sur aucun élément précis. Notre canevas, ainsi présenté, semblerait improbable à tout magistrat. La disparition de la gouvernante ne serait pas un argument, puisque de nombreux témoignages affirmeraient qu'il est coutumier aux membres de cette étrange maisonnée de parfois disparaître durant une semaine entière. Et pourtant, en cet instant précis, la vie de Miss Burnett doit être en grand danger. Tout ce que je puis faire pour ma part est surveiller la maison en laissant mon agent Warner en faction à ses portes. Nous ne pouvons laisser une telle situation perdurer, Watson. Si la loi ne peut rien pour Miss Burnett, alors il nous faudra agir par nous-mêmes. Et que suggérez-vous? Je sais quelle est sa chambre. Elle est accessible par le toit d'une dépendance. Je suggère que vous et moi nous rendions là-bas cette nuit et voyons si nous pouvons parvenir au dénouement du mystère. Ce n'était pas, je dois l'avouer, une perspective très séduisante.
La vieille demeure, avec son atmosphère terrible, ses habitants singuliers et redoutables, les dangers qui vous guettaient à notre approche, et le fait que nous nous mettions nous-mêmes dans une position illégale, tout cela se combinait en un refroidissement sensible de mon ardeur. Mais quelque chose dans le raisonnement formel de Holmes m'interdisait de me dérober à une expédition qu'il préconisait. Il était évident que de cette manière et de cette manière seule, la solution à l'énigme serait apportée. Je serrai sa main en silence et notre accord fut scellé. Mais je ne m'attendais pas à ce que notre investigation connût un dénouement aussi précoce. Il était environ 5 heures et les ombres de la nuit de mars commençaient à envahir l'obscurité quand un individu surexcité se rua soudain dans notre pièce. « Ils sont partis, monsieur Holmes. Ils ont pris le dernier train. La dame est arrivée à s'échapper et je l'ai amenée dans un fiacre jusqu'en bas. » « Excellent, Warner !» s'écria Holmes en sautant sur ses pieds. « Watson, le dénouement de notre affaire est proche !» Dans un fiacre se tenait une femme accablée d'épuisement nerveux, la tête appuyée sur sa poitrine. Son visage émacié et aquilin portait les traces d'une tragédie récente. Lorsqu'elle tourna vers nous ses prunelles grises, ternes et pigmentées de taches sombres, je reconnus les signes d'une récente administration d'opium. « Ben, j'ai surveillé la grille, comme vous me l'aviez demandé, monsieur Holmes, » dit l'émissaire, qui n'était autre que le jardinier congédié. « Et lorsque la carriole est sortie, je l'ai suivie jusqu'à la gare. La dame était aussi docile qu'une somnambule, mais quand ils ont essayé de la faire monter dans le train, elle est revenue à elle et elle s'est débattue. Ils ont tenté de la faire remonter dans la voiture, et c'est là qu'elle a réussi à s'échapper. Alors je l'ai interceptée, je l'ai fait monter dans un fiacre, et nous voilà. Oh, j'oublierai jamais la façon dont il nous a regardé passer à travers les vitres du fiacre. Oh, quel visage, des yeux noirs, le diable en personne. » Nous portâmes la gouvernante en haut des escaliers et l'allongeâmes sur un sofa. Quelques tasses du meilleur et plus fort café ne tardèrent pas à produire leur effet escompté en dissipant celui des drogues. Baines avait été fait appeler par Holmes. À son arrivée, l'inspecteur fut en quelques mots mis par mon ami au fait de la situation. « Eh bien, monsieur Holmes, vous m'apportez la preuve là qu'il me manquait, » dit chaleureusement l'inspecteur en secouant la main de mon ami. « Je suivais la même piste que vous depuis le début. »« Comment, vous étiez sur les traces d'Anderson ?»« Mais oui, monsieur Holmes, alors que vous-même rampiez dans les buissons de Hyde Gable, je me trouvais moi-même en hauteur dans un de ces arbres. Je vous ai aperçu en bas. Ce sera qui de nous deux obtiendrait cette preuve le premier. » « Et dans ce cas, pourquoi avez-vous fait procéder à l'arrestation du mulâtre ?» Baines eut un petit rire. Ben, « J'étais certain qu'Anderson, comme il se fait appeler, se sentant suspecté, resterait sagement chez lui sans bouger, jusqu'à ce qu'il juge tout danger écarté. Alors j'ai fait procéder à l'arrestation d'un autre pour lui faire penser que nous ne le soupçonnions pas. J'étais certain qu'il ne tarderait pas ensuite à repartir et nous offrirait ainsi une chance de mettre la main sur Miss Burnett. » Holmes posa une main sur l'épaule de l'inspecteur. « Vous irez loin, inspecteur. Vous êtes instinctif et intuitif, » lui dit-il. Baines rougit de plaisir. J'ai posté un homme en civil à la gare toute la semaine. Nous ne perdions de vue aucun des déplacements des habitants de High Gable. Mon agent doit se mordre les doigts d'avoir raté sa chance quand Miss Burnett s'est échappée. Mais qu'importe, votre homme s'est trouvé là au bon moment et tout est bien qui finit bien. Nous n'aurions pas pu procéder à l'arrestation de Anderson sans le témoignage de Miss Burnett. Aussi, plus tôt entendons-nous celui-ci, mieux ce sera. « Elle reprend des forces à chaque minute, » dit Holmes en examinant la gouvernante. « Mais dites-moi, Baines,
Que savez-vous exactement au sujet de cet Anderson ? Anderson, répondit l'inspecteur, est en réalité Don Murillo, plus connu sous la dénomination de Tigre de San Pedro. Le Tigre de San Pedro. Oh, l'histoire entière de la vie de cet homme me revint soudain en mémoire. Il avait acquis sa renommée en exerçant le pouvoir de la façon la plus tyrannique et sanguinaire, sous couvert d'un semblant de démocratie. Fort, sans peur, énergique, il avait été en mesure d'imposer sa dictature à un peuple qui le craignit durant 10 à 12 ans. Son nom inspirait la terreur dans toute l'Amérique centrale. Dans les dernières années de l'exercice de son pouvoir, un mouvement de contestation naquit, mais aussi rusé que cruel, au bruit de la première contestation, il avait secrètement fait embarquer ses trésors à bord d'un navire affrété par des partisans dévoués. Ce fut donc un palais désert et vide qui fut pris au lendemain de sa fuite par les assaillants. Le dictateur, ses deux enfants, son secrétaire, ses immenses richesses, tout leur avait échappé. À partir de cet instant, il sembla avoir disparu de la surface de la planète, mais les interrogations qui subsistaient sur sa véritable identité avaient fréquemment alimenté les entrefilets des journaux de la presse européenne. « Oui, monsieur, Don Murillo, le tigre de San Pedro, » dit Baines. Si vous y regardez de plus près, vous constaterez que les couleurs de San Pedro sont le vert et le blanc, comme dans la note, monsieur Holmes. Bien qu'il se fît appeler Anderson, je relevais sa trace à Paris, Rome, Madrid ou encore Barcelone, où son bateau accosta en 86. Ses opposants lésés n'ont eu de cesse de le perdre de vue jusqu'à ce qu'ils puissent prendre leur revanche, mais c'était que récemment qu'ils réussirent à le retrouver. « Ils l'ont retrouvé il y a un an, » dit Miss Burnett, qui s'était relevée et assise sur le sofa et suivait à présent attentivement la conversation. Une fois déjà, ils avaient tenté d'attenter à sa vie, mais sa chance diabolique l'avait préservé de la mort. À présent, encore une fois, c'est le noble et chevaleresque Garcia qui est tombé alors que le monstre garde la vie sauve. Mais un autre viendra, et encore un autre, jusqu'à ce qu'un jour justice soit faite. J'en suis certaine, cela ne pourra pas être autrement. Elle tordait ses mains et son visage avait blêmi sous la passion de la haine. « Mais comment vous êtes-vous trouvée mêlée à cette affaire, Miss Burnett ?» demanda Holmes. « Comment une dame anglaise peut-elle se trouver impliquée dans une telle affaire de politique criminelle étrangère ?»« Mais j'ai rejoint cette cause, car il n'y a sur Terre pas d'autre moyen d'exercer la justice. » Que dit la loi anglaise concernant les massacres perpétrés à San Pedro il y a de cela des années, ou du bateau rempli de trésors dérobé au peuple? Pour vous, ce sont rien d'autre que des crimes commis en d'autres endroits de la planète. Mais nous savons et nous ne pouvons pas oublier. Nous avons appris de notre tristesse et de nos souffrances. À nos yeux, il n'existe pas de plus grand criminel que Juan Murillo. Il ne s'écoule sans doute pas un seul moment pendant lequel ses victimes ne réclament encore vengeance. « Je n'en doute pas, » dit Holmes, « si l'on considère les faits ainsi que vous les rapportez. J'ai entendu dire qu'il avait commis des atrocités, mais en quoi êtes-vous personnellement concerné ?»« Je vais vous le dire. La politique de ce bandit était d'assassiner sous un prétexte quelconque quiconque promettait de lui être un jour un rival ou de se trouver un jour en travers de son chemin. Mon époux, oui, mon vrai nom est Signora Victor Durando, était ambassadeur de San Pedro à Londres. Alors nous nous rencontrâmes ici et nous nous mariâmes. Jamais la terre ne porta homme au caractère plus noble que celui de mon époux. Malheureusement, Murillo entendit parler de ses extraordinaires qualités, le fit venir sous un prétexte quelconque à San Pedro et le fit assassiner. Par un curieux sentiment prémonitoire, mon époux avait refusé que je l'accompagne. Alors ses biens furent aussitôt confisqués
et je fus laissé pour compte avec un salaire de misère et le cœur brisé. Puis la chute du tyran s'amorça, il s'enfuit de la façon ignoble que vous venez de juste de décrire, mais le nombre de ceux dont il avait ruiné la vie, ceux dont les êtres chers avaient subi la torture et s'être vu affliger la mort de ses mains, ne souhaitaient pas rester là. Ils se regroupèrent en une organisation qui ne devait jamais se dissoudre avant que son but n'eût été accompli. Et je fus désigné, après que nous ayons retrouvé en la personne de Anderson, le tyran déchu, pour m'attacher à sa maison et garder les autres informés de ses faits et gestes. Ce que je fis en obtenant le poste de gouvernante attachée à sa famille. Il ignorait que la femme qu'il avait en face de lui, à chaque repas, était celle dont il lui avait ôté le mari pour l'éternité. Je lui souriais, lui donnais mes soins à ses enfants, et j'attendais que l'heure de ma revanche ait sonné. Le premier attentat fut commis à Paris, mais échoua. Nous voyageâmes alors de ci, de là, en Europe, afin de tenter de semer nos poursuivants. Enfin, nous revînmes nous établir dans cette maison que Murillo avait acquise lors de sa première venue en Angleterre. Mais ici aussi, les membres de notre groupe étaient en faction. Soupçonnant à juste titre que Murillo finirait par être de retour ici, Garcia, qui était fils d'un ancien haut dignitaire de San Pedro, attendait avec deux compagnons de confiance dans une demeure qu'il avait louée dans les environs. Tous trois étaient animés de la même soif de vengeance. Garcia ne pouvait pas faire grand-chose durant le jour, car Murillo prenait toutes les précautions et ne sortait jamais sans son satellite Luca ou Lopez de son vrai nom lors de ses anciennes et tristes heures de gloire. La nuit, cependant, Murillo dormait seul et se trouvait ainsi en position d'être atteint et frappé. Alors, par un certain soir, dont la date avait été convenue par avance, j'envoyai mes dernières instructions à mon allié Garcia, car Murillo, sans cesse sur le qui-vive, changeait chaque soir de chambre. Je devais veiller ce soir-là afin de faciliter la maison de Garcia à ce que les portes restent ouvertes et à apposer le signal d'une lumière verte ou blanche derrière une fenêtre faisant face à la route afin d'informer si la voie était libre ou non. Mais les choses ne se passèrent pas comme je l'avais prévu. Je ne sais pas comment, mais je dus d'une manière quelconque éveiller les soupçons de Lopez, le secrétaire. S'étant glissé silencieusement derrière moi sans que je m'en aperçoive, il m'a sauté dessus quand j'eus terminé de rédiger la note. Lui et son maître me traînèrent alors à ma chambre et me traitèrent de la façon dont ils avaient coutume de traiter ceux qui les trahissaient. Bon, ils envisagèrent certainement de me tuer, mais ils auraient dans ce cas difficilement pu échapper aux conséquences de leurs actes. Finalement, après en avoir débattu, ils convinrent que m'assassiner était trop dangereux. Mais ils se décidèrent à se débarrasser de Garcia. Il m'avait ligoté et Murillo me tordit le bras jusqu'à ce que je leur eusse donné l'adresse de mon complice. Je jure que si j'avais su que cela conduirait Garcia à la mort, ils auraient pu continuer jusqu'à me l'arracher du corps, mais je ne leur avais pas donné l'information qu'ils cherchaient. Alors Lopez apposa l'adresse que je venais de lire livrée sur une enveloppe, la scella de son bouton de manchette et la fit porter par notre serviteur José. Comment ont-ils assassiné Garcia? Je l'ignore, mais je sais que ce fut la main de Murillo qui le frappa, car Lopez était resté avec moi dans ma chambre pour me surveiller. Je suppose qu'il a dû se contenter d'attendre de le voir passer et qu'il l'a frappé lorsque Garcia l'eut dépassé. Au début, Lopez et Murillo avaient envisagé de laisser Garcia pénétrer dans la maison, puis le tuer en prétextant l'avoir pris pour un voleur. Mais ils soupçonnèrent à juste titre que leur véritable identité ne manquerait pas d'être dévoilée au cours de l'enquête qui serait menée et qui se trouverait inéluctablement livrée ainsi à de nouvelles attaques de notre groupe.
Avec la mort de Garcia à distance raisonnable de Hyde Gable, l'enquête de police aurait pu ne pas les atteindre et l'assassinat de Garcia aurait pour un temps pu dissuader la récidive de nouvelles tentatives d'assassinat à l'encontre de Murillo de la part de ses anciens opposants. Tout aurait donc été pour le mieux, pour eux. Moi seul constituais le dernier obstacle compromettant à leurs yeux. Oh, je ne doute pas que ma vie fût régulièrement mise en balance. Ils me laissèrent enfermé dans ma chambre, me terrorisant par leurs menaces et m'infligeant des tortures terribles, cruelles et à des fins de me rendre folle. Jugez de ces traces de coups encore visibles sur mes épaules et ces contusions que portent encore mes bras. J'eus le malheur de tenter d'appeler du secours par la fenêtre. Un baillon fut immédiatement apposé sur ma bouche. Et cette détention cruelle se perpétua durant 5 jours. On me donnait juste assez de nourriture pour que mon âme ne se détachât pas de mon corps. Cet après-midi, enfin, on m'apporta un dîner plus copieux. Mais à peine eus-je avalé que je sus que l'on m'avait drogué. Je me rappelle comme dans un rêve avoir été emmené et porté dans une carriole. Je fus ensuite conduite dans un train, et c'est seulement lorsque les roues du train se mirent en marche que je repris subitement mes esprits et réalisai que ma liberté tenait tout entière entre mes mains. Alors je tentai de m'enfuir, ils tentèrent de me rattraper, et sans l'aide de ce brave homme qui m'a fait monter dans un fiacre, j'aurais jamais pu m'évader. Mais à présent, Dieu merci, je suis loin d'eux pour toujours. Nous avions tous passionnément écouté ce remarquable récit. Ce fut Holmes qui, le premier, reprit la parole.
« Nous ne sommes pas au bout de nos peines, » remarqua-t-il en secouant la tête. « Le travail de la police s'arrête ici, mais le nôtre commence. »«
Exactement, acquiesçai-je. Un bon avocat pourrait en faire un acte de légitime défense. » Il peut y avoir des centaines d'autres meurtres commis avant. Seul celui-ci sera jugé.
Allons, allons, dit Bynes d'un ton confiant. J'ai en la justice meilleure opinion. La légitime défense est une chose. L'assassinat d'un homme de sang-froid avec préméditation en est une autre, quel que soit le danger qu'on ait pu craindre de sa part. Non, 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 justice sera faite. Nous retrouverons ces habitants de High Gable aux prochaines assises de Guildford. La marche du temps et de l'histoire est telle qu'il s'écoula encore un certain temps avant que le tigre de San Pedro ne réponde de ses crimes. Hardis et rusés, lui et son compagnon semèrent leurs poursuivants en entrant dans une maison meublée d'Anmondon Street et en ressortant par l'arrière sur Curzon Square. À compter de ce jour, ils ne furent plus aperçus sur le sol d'Angleterre. Quelques 6 mois après, le marquis de Montalva et Signor Rulli, son secrétaire, furent tous deux retrouvés assassinés dans leur chambre d'hôtel à l'Escurial de Madrid. Le crime fut attribué aux nihilistes et les auteurs du meurtre ne furent pas arrêtés. L'inspecteur Bynes nous rendit un jour visite à Baker Street, muni de 2 portraits robots, le premier représentant le sombre visage du secrétaire, le second celui de son terrible maître aux yeux noirs magnétiques et aux sourcils touffus et en broussaille. Justice était enfin venue.
« Une affaire bien chaotique, mon cher Watson, » dit Holmes en fumant sa pipe du soir. Il vous sera sans doute impossible de la présenter dans la forme habituelle, concise, que vous privilégiez. Elle couvre en effet 2 continents, concerne 2 groupes d'individus mystérieux et est délicatement compliquée par la présence de notre ami hautement respectable, Scott Hickles, dont l'inclusion ne manque pas de prouver l'esprit intrigant et l'instinct très développé d'autopréservation du défunt Garcia. Cette affaire est cependant remarquable par le fait que, parmi une jungle de possibilités,
nous-mêmes assistés de notre performant collaborateur, l'inspecteur Bynes, avons su garder le cap sur notre but en dépit des routes sinueuses que nous avons dû emprunter pour y parvenir. Subsiste-t-il encore des éléments qui ne soient pas clairs pour vous, Watson? Mais la raison du retour du mulâtre? Oh, je soupçonne l'étrange créature de la commode de la cuisine d'en être la raison. L'homme était un primitif des forêts de San Pedro, et ceci était son fétiche. Lorsque lui et son compagnon se sont enfuis de la demeure pour rejoindre un lieu de retraite convenu par avance, et sans doute déjà occupé par un complice, son compagnon dut le persuader d'abandonner un objet aussi embêtant et encombrant dans leur fuite. Mais le cœur du mulâtre ne put s'y résigner. Il revint dès le lendemain à Wisteria Lodge pour l'y chercher, mais il eut la désagréable surprise de trouver, en examinant les lieux au travers de la vitre, le policier Walters en faction. Il résista durant 3 jours, mais sa croyance et sa superstition le ramenèrent encore une fois à Wisteria Lodge. Et l'inspecteur Barnes, qui avec sa perspicacité habituelle avait tenté de minimiser l'incident devant moi, en avait saisi toute l'importance et avait tendu ses filets dans lesquels l'individu s'engouffra. Autre chose, Watson? L'oiseau déchiqueté, le seau de sang, les os consumés. Quel est le mystère de toute cette étrange cuisine? Holmes sourit en consultant une page de son calepin. J'ai passé une matinée au British Museum pour éclaircir ces points dans mon esprit. Voici une citation du vandouisme selon Inkermann et des différentes religions négroïdes. Le véritable adorateur vaudou ne tente rien d'importance sans certains sacrifices préalables destinés à apaiser les dieux. Dans les cas les plus extrêmes, ces rites prennent la forme de sacrifices humains suivis de cannibalisme. Les victimes les plus habituelles de ces rituels sont le coq blanc, qui doit être plumé et démembré vivant, et la chèvre noire, dans laquelle on tranche la gorge en recueillant le sang avant de brûler son corps. Vous constatez, Watson, que notre sauvage ami était un fervent pratiquant de ces rituels. Il est décidément pour le moins grotesque, conclut Holmes en refermant son calepin. Que la piste du grotesque conduise si fréquemment au criminel.